en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Chancelier honoraire, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues, chers amis, merci beaucoup pour cette invitation. Merci Monsieur le Président en particulier, et je tiens à présenter mes excuses à ceux à qui je présente mon dos. J'essaierai de me retourner de temps en temps, mais c'est pas un exercice facile, surtout que les micros sont devant moi.
Oui, et que vous ne les quittez pas.
Voilà, donc je ne les quitterai pas, donc voilà. Merci donc Monsieur le Président de cette belle introduction. La problématique est très exacte, ce que j'ai envie de vous dire, car ça me permet de gagner un peu de temps. Et les précieuses minutes que vous m'avez accordées pour vous exposer mes idées sur la question des rapports entre opinion et crédulité ne seront pas de trop. Et je n'aurai pas du tout fait le tour du sujet après que j'aurai terminé cette conclusion. Et j'espère que les échanges qui suivront nous permettront d'éclaircir quelques points que j'aurais pu laisser éventuellement en jachère. Dans un premier temps, je dirais que, en effet, comme vous l'avez rappelé, l'actualité la plus récente ne me demandera pas trop d'efforts pour vous convaincre que le sujet est d'actualité. Et combien nous semble lointaine l'époque, je parle de 2002, où avait paru un grand rapport de l'UNESCO qui nous promettait qu'avec Internet, nous allions nous diriger massivement vers les sociétés de la connaissance. Cet espoir, comme toutes les croyances d'ailleurs que je vais évoquer, et vous avez eu raison de placer ma réflexion à la lumière du grand Raymond Boudon, qui est en effet mon maître intellectuel, et ces croyances, ces espoirs n'étaient pour autant pas irrationnels à proprement parler. Si on fait un tout petit effort, il n'est pas trop conséquent, car 2002 c'était hier, nous nous rappelons très bien des raisons pour lesquelles Internet, qui est un outil formidable, je tiens à le préciser bien entendu, dont je ne pourrais pas me passer personnellement, évidemment, combien Internet donc a pu susciter toutes sortes d'espoirs, parce que finalement, le paralogisme qui était derrière cet espoir était que Internet permet la disponibilité de l'information. Et ça, c'est vrai. Et cette disponibilité de l'information paraissait mécaniquement, avec l'augmentation du niveau d'études, bien nous promettre en quelque sorte des sociétés plus rationnelles, des citoyens mieux informés et donc plus à même de prendre des décisions mieux éclairées, etc. Bref, ce qui est évidemment essentiel pour les questions démocratiques et pour la fondation de ce que vous avez appelé tout au long de votre année de travail l'opinion. Et effectivement, nous avons un peu l'impression de vivre, en tout cas c'est un peu mon impression, de vivre dans un monde devenu tout de même un peu fou. Sauf que cette folie dont nous parlons, elle est la conséquence en quelque sorte d'un amoncellement de raisons, ce qui peut paraître paradoxal. Mais pour bien me faire comprendre et pour ne pas être trop abstrait, vous me permettrez de commencer par un exemple. Vous avez vu que l'attentat de Strasbourg a donné lieu, vous l'avez rappelé Monsieur le Président, à un cortège de théories du complot. Et quand on regarde dans le détail les raisons qui ont conduit à l'apparition de cette théorie des complots, elles ne sont pas totalement loufoques dans certains cas. Par exemple, il y a l'histoire de ce tweet qui a été émis présumément par la préfecture de police et qui était daté de la bonne date, mais qui était, qui était envoyé à une heure qui précédait l'attentat. Il y a de quoi, inquiéter tout esprit, même rationnel. Il se trouve que cet esprit ne peut pas savoir qu'en fait l'heure a bien en fait suivi l'attentat, mais c'est que le réglage de Twitter, parce que c'est un tweet qui a été émis, eh bien ce réglage ne tenait pas compte des fuseaux horaires, et donc l'heure qui a apparu notamment sur BFM n'était pas du tout l'heure à laquelle la préfecture a envoyé ce tweet. Donc vous voyez, là encore, il n'y a pas besoin d'être stupide pour mordre à l'hameçon, surtout si on a envie de croire, comme sans doute certains gilets jaunes avaient envie de croire, parce que finalement cet attentat était non seulement un drame, mais aussi un peu contrariant quand on a prévu une journée d'action le samedi suivant. Alors je vais commencer par un autre tweet, tout à fait réel aussi, et que vous allez pouvoir voir, et celui-ci qui annonce, comme vous le voyez en anglais, une attaque terroriste qui a fait 120 morts et 270 blessés. Bien évidemment, là aussi, ce tweet nous évoque cette journée d'horreur qui a été le 13 novembre, dont nous nous souvenons très bien. Seulement, voilà, il y a un problème. Si vous regardez en détail, alors si vous êtes trop loin de l'écran, je vais vous le décrire, on voit que ce tweet a été émis le 11 novembre 2015. Ah, Monsieur le Président, je suis content que vous paraissiez surpris, parce qu'évidemment, c'est la réaction normale d'un esprit bien constitué face à cette information. Alors, vous pourriez me dire que c'est un trucage, etc. Non, ça pourrait être un trucage, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le problème. Ce tweet a vraiment été émis le 11 novembre, soit deux jours avant les attentats. Il est normal qu'un cerveau normalement constitué se dise « il y a quelque chose d'étrange là-dedans ». En d'autres termes, si je traduis un peu, évidemment, ce n'est pas comme ça que fonctionne le cerveau, mais si on fait un petit modèle approximatif, nous nous disons quelle est la probabilité de chance pour que, par hasard, quelqu'un émette un tweet comme ça et tombe pile poil, si vous me permettez l'expression, ou à peu près, parce qu'en fait, ni le nombre de morts ni le nombre de blessés en réalité exact, mais nous donne l'impression, disons, d'une proximité avec le fait réel. Eh bien, notre cerveau, que nous voulions ou non, va nous dire « c'est très peu probable ». Et alors, évidemment, parce que l'explication qui peut... Il y a deux types d'explications. Soit la personne a des pouvoirs de précognition, elle voit dans l'avenir, hein, ou alors cette personne savait qu'il allait y avoir des attentats et elle a fait fuiter l'information, ce qui ouvre la porte à toutes sortes de théories conspirationnistes, comme vous pouvez le comprendre. Et en plus, j'ajoute à cela, pour aggraver le cas, que Twitter, puisque c'est un tweet, a interdit ce compte après cette affaire. Donc immédiatement, les conspirationnistes se sont dit « c'est bien la preuve ». N'est-ce pas ? Donc voyez, si je ne vous donne pas, disons, si je ne donne pas la solution de ce problème, voyez bien quel inconfort cette information crée en nous. Il n'y a pas besoin d'être stupide, si on a envie d'y croire, pour ouvrir la porte à ce que certains vont appeler une théorie alternative à la théorie officielle. En réalité... Si j'expose les choses comme ça, c'est que la crédulité collective s'en est emparée comme ça, mais il y a quelque chose d'un peu malhonnête. Il est vrai que la probabilité de chance que quelqu'un, par hasard, envoie un tweet de cet ordre et tombe, comme par hasard, sur un phénomène d'actualité, elle est très faible. Mais vous savez, avec les probabilités, c'est toujours pareil. Ça dépend de la taille de l'échantillon duquel est issue l'expérience. Par exemple, si vous avez une chance sur 10 000 de réussir un exercice comme prendre une fléchette et tirer au centre d'une cible qui est très très loin. Mais que vous essayiez 10 000 fois, il est à peu près normal que vous réussissiez au moins une fois, n'est-ce pas ? Mais si je cache les 9 999 fois où vous avez essayé pour ne filmer que la fois où vous avez réussi, je veux pouvoir faire croire facilement que vous êtes extraordinairement doué. Mais ça sera malhonnête. En réalité, si ce compte a été interdit par Twitter, c'est que c'est un compte robot qui émettait des milliers de tweets tous les jours de cette nature. Et là, je vais vous faire apparaître la taille de l'échantillon. Vous voyez, il y a bien le tweet dont je vous ai parlé, mais il y a d'autres tweets qui annoncent une épidémie d'Ebola avec 120 morts et 270 blessés, ce qui est un peu curieux pour Ebola, ou une attaque au Niger dans une mosquée qui a fait 120 morts et 270 blessés, etc., etc. En fait, sur les milliers de tweets qu'émettait chaque jour ce robot, de temps en temps, il arrivait que l'actualité rattrape un de ces tweets. Et c'est ce qui est malheureusement arrivé le 13 novembre. Mais c'est une pure coïncidence. Il se trouve simplement que cette coïncidence échappe au traitement rationnel de notre cerveau parce qu'on a effacé la taille de l'échantillon duquel était issu ce tweet. Dès lors qu'on reconstitue la taille de cet échantillon, on remet à l'endroit le fonctionnement de notre cerveau, ce qui pourrait presque constituer une conclusion à ce que je vais vous dire, parce que si ce que je vais vous dire peut paraître un peu pessimiste, il se trouve que moi je suis plutôt un optimiste et je pense qu'il y a des solutions. Une des solutions dans ce cas de figure pour faire disparaître l'illusion mentale, c'est comprendre comment elle se crée et trouver un moyen de la faire disparaître en exposant l'information d'une façon un peu différente. Alors effectivement, il s'est produit, et c'était l'espoir de 2002 et du site du document de l'UNESCO vers une société de la connaissance, il s'est produit un phénomène dans l'histoire de notre humanité qui est un phénomène considérable. Nous avons la chance extraordinaire de vivre un événement historique, incontestablement, et que j'appellerai tout simplement la dérégulation massive du marché de l'information. Le marché de l'information, il n'y a encore pas si longtemps, était fermement régulé par ceux que la théorie de la communication appelle les gatekeepers, les gardiens du seuil, et qui étaient les journalistes, par exemple, les hommes politiques, les académiciens comme vous, les professeurs d'université, les chercheurs, les présidents d'associations, etc., etc. Toute une série d'acteurs qui étaient considérés comme légitimes à prendre la parole dans l'espace public. C'est pourquoi certains de mes collègues parlent à propos de cette dérégulation du marché de l'information, et qui peut être approchée par exemple par cette courbe du nombre d'internautes dans le monde, certains de mes collègues parlent d'une démocratisation du marché de l'information. Seulement, j'y reviendrai, c'est une drôle de démocratie, et nous allons voir pourquoi. Alors effectivement, moi j'ai grandi à une époque où je me rappelle la chute du mur de Berlin. Et certains commentateurs, on pense à M. Francis Fukuyama notamment, à nous annoncer la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Le moins qu'on puisse dire, d'ailleurs il est revenu lui-même sur cette prophétie, le moins qu'on puisse dire est que l'histoire s'est réinvitée de force dans notre quotidien. Et je pense que ce simple élément technologique, cette dérégulation du marché de l'information, est en effet un événement de nature presque civilisationnelle et qui nous porte au carrefour de l'histoire de nos démocraties. Et c'est ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui. Et il y a deux, disons, éléments qui sont impliqués par cette dérégulation du marché de l'information. Premièrement, comme l'avait bien vu le rapport de l'UNESCO, en effet, la disponibilité massive de l'information. Jamais l'humanité n'a eu accès à autant d'informations. Ce qui est formidable dans un premier temps. Je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs, n'est-ce pas, dans la salle. Quand j'ai fait ma thèse, il y a quelques années, je devais commander des articles par le prêt interuniversitaire. Je payais les photocopies, j'attendais 2 ou 3 semaines pour me rendre compte que l'article ne m'intéressait pas du tout. Bon, dans le pire des cas, quelquefois, souvent, ça m'intéressait, heureusement. Et donc, évidemment, là, en tant que chercheur, et personne qui fait de la recherche dans cette salle ne me démentira, c'est absolument formidable, cet outil. Nous pouvons lire, compulser des dizaines d'articles par jour. Nous avons des clés pour les avoir plus ou moins gratuitement. Et donc, c'est une formidable nouvelle, effectivement. Mais cela nous confronte à des défis redoutable, parce que en plus de cette disponibilité de l'information, qui peut être traduite par exemple par le fait qu'on a publié au début des années 2000, donc vous voyez, au début de l'histoire de cette dérégulation du marché, on a publié plus d'informations sur cette terre que depuis l'invention d'imprimerie par Gutenberg. En 2005, on avait produit 150 exabits de données, ce qui est considérable. En 2010, on en avait produit 8 fois plus. Donc il y a une progression géométrique de la disponibilité de cette information. Évidemment, le problème, la confusion qu'avait fait le rapport de l'UNESCO, c'est donc la confusion entre disponibilité de l'information, ça c'est bien réel, et visibilité de l'information. Ce n'est pas parce qu'il y a une masse considérable d'informations qui est disponible que la bonne information va être plus visible que la mauvaise, en quelque sorte. Et en particulier parce que sur ce marché cognitif, je me permets de reprendre le terme que vous avez indiqué tout à l'heure, eh bien, il va y avoir, en quelque sorte, je file à la métaphore, des rayons, un achalandage de rayons, et que certains produits vont être plus facilement devant notre regard que d'autres. Certains produits vont nécessiter des efforts parce qu'ils sont tout en haut ou tout en bas. Et donc, qu'est-ce qui va présider à la mécanique de cette visibilité de l'information? Eh bien, un élément fondamental, nous tous. La façon dont nous achetons des informations sur ce marché va les rendre plus visibles. La façon surtout dont nous nous exprimons, dont nous sommes motivés à nous exprimer. Rendre compte du deuxième élément, j'ai dit que le premier élément fondamental, c'est la disponibilité de l'information. Le deuxième, eh bien, c'est le fait que chacun d'entre nous, après tout aujourd'hui, peut donner son point de vue sur les gilets jaunes, par exemple, sur n'importe quel sujet, et rendre son point de vue public ou semi-public par l'entremise des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a presque autant d'éditorialistes que de comptes Facebook en France, ce qui fait beaucoup, n'est-ce pas? Bon, vous me direz, il y avait autant d'entraîneurs de football que de Français, disait-on jadis. Donc chacun peut donner son point de vue. Chacun a ici peut-être dans la poche un appareil qui lui permet d'enregistrer en direct un segment de réalité, ce qui est en train de se produire là, et de le verser immédiatement dans un espace public. Donner sa version des faits, en quelque sorte. Pour rendre compte de cela, il y a cette image, cette photo qui est assez connue, que j'aime bien. Vous voyez, c'est le même lieu en 2005 et en 2013. voyez, entre-temps, il s'est passé un petit quelque chose. Oui, et donc c'est pas un concert de rock et c'est pas des bougies, c'est bien des personnes simplement qui possèdent un appareil, que ce soit un téléphone, un smartphone, une plaquette, une tablette, pardon, qui lui permet d'enregistrer le réel et de le verser. Et ça, c'est un élément très important. Parce qu'en réalité, évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais c'est le même, c'est la même scène qui est filmée. Non, d'abord, c'est pas tout à fait la même scène, parce que chacun occupe une position dans l'espace un peu différente. Et puis, ça va ouvrir très largement le domaine de la narration possible de l'événement. Et c'était exactement dans cet éventail narratif que vont puiser, par exemple, les conspirationnistes pour trouver des éléments qui vont leur paraître comme des anomalies à la version officielle. Prenez par exemple l'attentat de Charlie Hebdo, sur lequel j'ai pas mal travaillé, et les croyances conspirationnistes qui sont nées de cet attentat. Eh bien, par exemple, on a eu des tas de photos et des films, notamment un film assez pénible où il y a vous vous en souvenez sans doute, un policier qui est abattu au sol, n'est-ce pas, par un tir de Kalachnikov. Eh bien, et il y a eu à ce moment-là beaucoup d'experts en balistique sur Internet qui ont remarqué qu'une balle de Kalachnikov n'aurait pas dû produire cet effet-là. Parce que sur la vidéo, on ne voyait pas de sang, etc. Il y avait plein de détails qui paraissaient être, dissonants par rapport aux attentes intuitives. Alors qu'évidemment, la plupart d'entre nous n'avons jamais vu ce que fait, comme dégâts, heureusement pour nous, une balle de cet ordre-là. Bref, la disponibilité de l'information, de l'image, de la vidéo, elle augmente l'empire de la narration possible, sachant que cet empire est impacté par la motivation que nous avons de raconter tel ou tel type d'histoire. En fait, contrairement à ce que croyait l'UNESCO donc en 2002, ce n'est pas la confrontation raisonnable des points de vue, parce que c'était un désespoir. Si tout le monde s'exprime, dans la délibération, on va aboutir à une espèce d'agora rationnelle et vont émerger les meilleurs points de vue. Non, parce que le premier élément tangible de cette dérégulation du marché de l'information et de cette disponibilité de l'information est que cela savonne la pente d'une des plus anciennes tendances de l'esprit humain et d'une des plus fermes tendances qui nous conduit à la crédulité, qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire la tendance que nous avons tous, y compris moi qui vous parle, d'aller chercher, pour tester mes hypothèses, des informations qui vont dans le sens de mes attentes et de mes croyances, plutôt que des informations qui vont contredire mes attentes et mes croyances. Or, c'est assez simple. Plus il y a d'informations disponibles dans l'espace public, plus la probabilité de chance d'en trouver au moins une qui va dans le sens de vos compulsions idéologiques est importante. C'est en quelque sorte le paradoxe de la crédulité informationnelle. Plus il y a d'informations, plus la probabilité de chance que la crédulité se développe est importante. Pour des raisons presque arithmétiques, en quelque sorte. Et donc, dans cet océan d'informations, nous avons tendance à nous enfermer, n'est-ce pas, dans des positions d'insularité. C'est ce que montre assez bien ce dessin que j'aime et que je reproduis ici pour cette raison, n'est-ce pas ? Nous ne nous confrontons pas tant à l'altérité qu'à d'autres nous-mêmes. Et ça, c'est vrai, par exemple, si vous achetez un livre sur Amazon. Une fois que vous aurez acheté un livre d'une certaine sensibilité sur Amazon, eh bien Amazon va vous proposer à l'achat d'autres livres qui ressemblent au livre que vous avez acheté. Si vous aimez les séries télé ou les films et que vous êtes abonné à Netflix, vous aurez le même algorithme d'enfermement. Et enfin, si vous êtes, par exemple, membre de Facebook, que vous avez un compte Facebook, parmi tous vos amis, vous verrez prioritairement ceux qui ont tendance à approuver vos publications, à les partager, bref, probablement, à penser un peu comme vous. Et donc, vous allez vous enfermer dans une fréquentation du même, et ça, c'est vrai aussi pour les blogs politiques. Bref, vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil. C'était déjà comme ça dans la vraie vie. C'est vrai. C'était déjà comme ça. On a tendance à fréquenter plus facilement des gens qui pensent pas trop loin de nos positions morales et politiques. On a des réseaux sociaux, etc., bien sûr. Mais Internet, et c'est ce qu'ont montré les sciences sociales computationnelles, a amplifié ce phénomène. En fait, Internet n'invente rien. Il amplifie certaines faces obscures, y compris de la démocratie. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme un peu provocateur de démocratie des crédules. Nous sommes bien encore en démocratie, bien entendu, mais parmi l'arborescence des démocraties possibles, nous ne nous dirigeons pas forcément vers, je dirais, le feuillage qui est le plus intéressant d'un point de vue rationnel. Alors, Cette situation de biais de confirmation et de dérégulation de marché de l'information, elle favorise aussi ce que l'on peut appeler des minorités actives. Et oui, et c'est là où on peut parler, si on veut, de démocratisation de la démocratie et de démocratisation du marché de l'information en parlant d'Internet. C'est vrai qu'il y a quelque chose de cela, puisque chacun peut donner son point de vue et que la liberté d'expression est au fondement, n'est-ce pas, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout simplement. Seulement, voilà, dans cette démocratie, certains votent 1000 fois, tandis que d'autres ne votent jamais. Ce qui est caractéristique de ce marché de l'information, c'est une asymétrie de motivation à faire valoir son point de vue. Et comment lutter contre cela, attendu que chacun a le droit de faire valoir son point de vue ? Pourquoi, après tout, j'interdirais, y compris aux anti-vaccins, de faire valoir leurs arguments ? Le problème, c'est que les anti-vaccins vont avoir beaucoup plus de motivation en général à faire valoir leur point de vue que les autres. Que ceux qui défendent l'astrologie vont avoir beaucoup plus de motivation à le faire que les autres. Que les conspirationnistes vont avoir beaucoup plus de motivation, etc., etc. D'une façon générale, ceux qui ont des points de vue radicaux, c'est-à-dire qui ont un rapport inconditionnel à un énoncé, vont avoir plus de motivation identitaire à faire valoir leur point de vue. Ainsi, quelqu'un qui croit à la théorie du complot va facilement se définir lui-même, non pas comme un conspirationniste, ça c'est un terme qu'il n'acceptera pas, mais du moins comme un sceptique, il va voler ce terme, le terme de scepticisme, qui est plutôt une forme de nihilisme mental chez lui. Mais il va pouvoir se définir par rapport à cette croyance. Mais vous qui ne croyez pas aux théories du complot, je suppose, vous n'allez pas vous définir comme des non-croyants aux théories du complot. Ce serait un peu étrange. Alors voilà, malgré tout, ce qui est en train donc de se produire, c'est que, et ça c'est une des solutions du problème aussi, nous tous, nous avons laissé la place vide à ces gens. Nous avons pratiqué la politique en quelque sorte de la chaise vide. Je sais que ce n'est pas le cas de certains d'entre vous. Vous vous battez sur les réseaux sociaux par des éditoriaux, etc., par votre activité intellectuelle, bien entendu. Vous n'êtes pas un échantillon très représentatif. Mais du moins, je comprends un certain nombre de mes concitoyens qui n'ont pas envie de consacrer autant de temps, parce qu'ils sont moins motivés que les croyants dont on parle, à faire valoir leur point de vue. Et ceci a été assez bien identifié aussi par les travaux d'un collègue et ami, Walter Cotocecchi, en Italie, qui est un des représentants de la science computationnelle et la sociologie computationnelle que j'évoquais tout à l'heure. Alors, ils ont travaillé, par exemple, sur une controverse qui a opposé des tenants du conspirationniste à des tenants, on va dire, du rationalisme, c'est-à-dire des gens qui essaient de défendre la rationalité dans le débat public. D'accord ? Et voilà les traces que ces deux groupes ont laissées sur Facebook. Alors voilà, on a des graphiques, vous avez déjà vu sans doute ce genre de graphisme, c'est relativement illisible, en fait il faut des macros hein, pour les lire, mais peu importe. Il y a là, vous voyez, en bleu, ce sont les conspirationnistes, en rouge, les défenseurs de la science, c'est comme ça que Walter Kotocek les a identifiés. Et alors, il y a deux choses qui sont très intéressantes. Premièrement, comme vous le voyez, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces gens-là ne se parlent pas. En réalité, ils sont dans ce qu'on appelle des chambres d'écho. Et ils vont apprendre à se détester les uns les autres. C'est le « eux » et « nous », évidemment, qui cimente tout rapport haineux dans la vie sociale. Et puis, autre fait intéressant et non moins inquiétant, c'est que les conspirationnistes ont laissé 3 fois plus de traces que ceux qui défendent la science. Ça ne veut pas dire qu'ils sont 3 fois plus nombreux. Comprenez-moi bien, hein ? Ils laissent 3 fois plus de traces. C'est-à-dire que leur point de vue, pour quelqu'un qui est indécis et neutre, va être 3 fois plus visible, toutes choses égales par ailleurs, que le point de vue des défenseurs de la science. Et c'est ainsi, par exemple, que si vous utilisez le moteur de recherche Google, comme je l'ai fait, sur toute une série de sujets, vous vous apercevez que les 30 premiers sites qui sont proposés par Google, ce qui est une approximation raisonnable du genre de recherche que l'on fait, parce que les enquêtes de Donna ont montré que 99% des internautes s'arrêtent aux 3 premières pages de Google, c'est-à-dire que c'est les 30 premiers sites, hein, c'est déjà pas mal. Eh bien, dans les 30 premiers sites, en moyenne, vous avez 70% des sites qui défendent la croyance, à peu près quel que soit le thème, plutôt que l'orthodoxie de la science. C'est vrai pour l'astrologie, je l'ai dit, c'est vrai pour le monstre du Loch Ness, vous savez. C'est vrai pour ceux qui croient que l'esprit peut déplacer des objets par le pouvoir de la pensée, ou pour ceux qui croient que certains cercles dans les champs de blé sont des pistes d'atterrissage pour extraterrestres. Tout cela, c'est un peu loufoque et exotique, mais c'est vrai aussi, malheureusement, si vous tapez « vaccin danger », par exemple, si vous tapez « onde danger », si vous tapez, que sais-je, toute une série de termes qui renvoient presque systématiquement, justement, à des dévissages, en quelque sorte, de l'opinion publique par rapport à l'orthodoxie de la science telle qu'elle est constituée. Mettons-nous à la place de nos concitoyens, encore une fois. Ils ne sont pas idiots. Ils ne sont pas stupides pour autant. Ils font, c'est déjà tout à fait louable, un effort pour s'informer. Ils vont utiliser le moteur de recherche et ils vont tomber sur un supermarché dont les rayons sont achalandés par la motivation de ceux qui disposent donc toutes sortes de produits. Si vous croyez fermement en A ou que vous croyez fermement en Ona, l'astrologie par exemple, la structuration du marché de l'information va faiblement impacter votre point de vue. Nous ne sommes pas des marionnettes. Mais si vous êtes indécis, et c'est généralement pour ça qu'on utilise un moteur de recherche. Quand on cherche l'information, c'est qu'on est en situation d'incertitude mentale. Si vous êtes indécis, alors la structuration de l'information va avoir un impact statistique prévisible sur votre acte d'achat sur ce supermarché. Et ça, nous l'avons montré avec une équipe à Strasbourg, notamment pour une croyance en particulier, ce qu'on appelle les EMI, les expériences de mort imminente. C'était pas très difficile à démontrer, mais encore fallait-il en faire l'expérimentation. Effectivement, ceux qui n'avaient pas un point de vue très ferme sur cette question étaient impactés par la structuration statistique de l'information sur cette question sur Internet. Alors Internet, la dérégulation du marché de l'information, elle provoque encore un deuxième effet favorable à la crédulité. C'est qu'auparavant, cette crédulité, quand le marché de l'information était régulé, elle perçait de temps en temps. Il y a toutes sortes d'âneries qui ont pu être publiées, bien entendu, dans les journaux. Qui ne fait pas d'erreur ? Moi-même, j'ai déjà écrit des âneries, et pardon pour cela. Mais en même temps, cette régulation, elle empêchait que tout et n'importe quoi arrive. Donc la plupart des croyances, des rumeurs, elles se développaient, elles existaient, mais sur ce que j'appellerais le marché noir de l'information, c'est-à-dire le bouche-à-oreille. Et comme elle se développait par le bouche-à-oreille, elle se déployait lentement dans l'espace public. Et comme elle se déployait lentement dans l'espace public, les objets sur lesquels elle portait avaient très vite fini de nous intéresser. Et c'est pourquoi les seules théories du complot qui pouvaient survivre à cette sélection en quelque sorte darwinienne des cerveaux, c'était des théories du complot massives qui portaient sur des phénomènes historiques. Est-ce qu'on a marché sur la Lune, Pearl Harbor, vous voyez, des choses qui étaient mémorisées. Mais par contre, par exemple, la mort du PDG Total, qui a donné lieu à des théories du complot, si elle avait survenu il y a une trentaine d'années, n'aurait donné lieu à aucune théorie du complot, parce que nous avons oublié déjà ce tragique événement. Mais justement, ce que provoque indiscutablement Internet, c'est une accélération de la diffusion de la crédulité, de sorte que ce n'est peut-être pas qu'il y a plus d'objets de crédulité que par le passé, mais du moins la sélection darwinienne fondée sur la mémorisation à court terme de notre cerveau opère moins sur ces objets et donc ils survivent mieux. Et pour le montrer, j'ai repris les théories du complot avec ce petit... Pardon, j'avais oublié cette slide. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je passe, je l'ai déjà détaillé. Ça, c'est un certain nombre d'événements, assassinat de Kennedy, attentat du 11 septembre, qui ont donné lieu à des théories alternatives. Je n'ai pas besoin de me prononcer ici, de savoir si j'accepte ou pas ces théories alternatives. Je constate qu'il y a des théories alternatives qui sont nées par rapport aux théories officielles. Par exemple, les attentats du 11 septembre ont dû attendre 27 jours pour voir apparaître la première théorie du complot. N'est-ce pas ? Et c'était sous la plume de Thierry Messant, vous vous en souvenez peut-être. N'est-ce pas ? Et c'était sur Internet cette fois. 27 jours. Les tremblements de terre d'Haïti, dont certains disaient qu'ils étaient en fait la conséquence de la possession par les États-Unis d'une arme qui s'appelle ARP, qui serait censée provoquer des tremblements de terre, n'est-ce pas ? Eh bien, il a fallu 6 jours pour attendre l'apparition de cette théorie du complot. Pour Mohamed Merah, ou pour les attentats de Charlie Hebdo, ou comme vous l'avez vu pour les attentats de Strasbourg il y a quelques jours, c'est 0 jour. Et c'est même, ça se compte en minutes, pour ne pas dire en heures, n'est-ce pas ? Et donc, on le voit, cette accélération de la crédulité, elle est saillante, mais elle est saillante pour à peu près n'importe quel sujet. Mais vous allez me dire, bon, d'accord. D'accord, il y a des minorités actives qui rendent visible leur point de vue. Entendu, leur point de vue va plus vite. Mais quand même, ce sont des théories loufoques. On ne peut pas y croire. Alors, ça n'explique pas tout, cette rapidité et cette visibilité de l'information. Oui, c'est vrai que ces théories sont soutenues souvent par des arguments loufoques dans un certain nombre de cas, mais ne sous-estimez pas le nombre d'arguments qui soutient ce type de théorie. Revenons à l'ancien temps, au moment où précisément il y avait une régulation. Et donc je vous ai dit que finalement, les croyances à ce moment-là, elles se diffusaient par le bouche-à-oreille. Donc elles se diffusaient lentement, mais il y avait une autre conséquence à cela. Elles se diffusaient lentement et comme elles ne pouvaient compter que par le bouche-à-oreille, dont les capacités de mémorisation du cerveau, elles ne pouvaient qu'être faiblement argumentées. Parce que nous ne pouvons pas mémoriser un grand nombre d'arguments. Par exemple, il y avait des croyances, moi je les ai entendues quand j'étais au collège, qui disaient que la marque de cigarette Marlboro, je ne sais pas si vous vous souvenez, était en fait soutenue par le Ku Klux Klan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Alors c'était quoi l'argument? C'était que le paquet, en fait, il y a trois cas rouges, n'est-ce pas? Donc vous voyez, c'est un peu faible comme argument. Alors on se racontait ces histoires en y croyant, sans y croire, c'était un peu comme des histoires drôles, c'était pas très problématique, personne n'aurait songé à l'époque à fonder une association ou une ONG pour combattre l'influence, n'est-ce pas, du Ku Klux Klan par rapport à la marque Marlboro. C'était un peu comme les histoires drôles, on les mémorise parce qu'elles sont courtes, elles sont spectaculaires, la fin en est spectaculaire, et fondée souvent sur des stéréotypes. Donc la performance de ces produits sur le marché cognitif était relativement faible. Cette performance, elle a été donc accrue par tous les éléments que j'ai mentionnés, mais aussi par le fait qu'Internet permet un travail en essaim, permet un travail collectif. Chacun y va de son examen d'une photo, d'une vidéo, d'un argument, de ce qu'un tel a déclaré, d'un lapsus même parfois, pour y voir une anomalie. Et ainsi, j'ai pu travailler sur les attentats de Charlie Hebdo spécifiquement, je vous l'ai dit, et j'ai dénombré le nombre d'arguments en faveur de la théorie du complot qui apparaissaient au jour le jour, sur tous les réseaux sociaux. Et voici ce qu'on obtient. Le 7 janvier, jour de l'attentat, il y avait déjà 26 arguments en faveur de la théorie du complot. 4 jours après, il y avait plus de 100 arguments en faveur de la théorie du complot. Certains étaient troublants, comme le fait que les frères Kouachi aient oublié leur carte d'identité, vous vous souvenez, dans la voiture. Pourquoi, alors qu'ils étaient masqués? On ne peut pas répondre facilement à ce type d'objection. D'autres étaient totalement loufoques, comme ceux qui prétendaient que la marche en soutien de Charlie Hebdo avait formé la carte d'Israël à l'envers. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont machiavéliques au point de créer des attentats, mais en plus, ils ne peuvent pas s'empêcher de signer quand même, voyez. Bon, je passe sur le caractère loufoque de l'argument, mais évidemment, les conspirationnistes dont nous parlons ne croyaient surtout pas qu'ils croient. Il y a plus de 150 arguments à la fin de la... Je me suis arrêté là dans le graphique. Ne croyez pas qu'ils croient ou même qu'ils ont mémorisé les 150 arguments. Mais ça crée deux effets qui sont fondamentaux pour la croyance. Premièrement, beaucoup disent « tout ne peut pas être faux ». D'accord, il y a des dingueries là-dedans, mais tout ne peut pas être faux. Donc ça crée un trouble et ça ouvre la porte à la possibilité. Là encore, il s'agit, la plupart du temps, les conspirationnistes n'ont pas une théorie toute faite. Ce qu'ils veulent, ils s'évoquent eux-mêmes comme des réinformateurs. Ils veulent ouvrir la porte de votre disponibilité mentale. Puis le deuxième effet que cela provoque, et qui est très important aussi, c'est une forme d'intimidation mentale. Parce que si vous êtes confronté à un conspirationniste, et si, comme je l'appelais tout à l'heure, vous essayez de combattre ces arguments par vos arguments rationnels, vous avez intérêt à être bien équipé intellectuellement, à être formé. Sinon, vous allez perdre. Parce que lui, il n'a que ça à faire. Et il a mémorisé toute une série d'arguments dont vous n'aurez jamais entendu parler. Et c'est précisément le problème auquel sont confrontés certains de nos collègues du secondaire, par exemple, qui enseignent l'histoire et qui voient tout à coup des élèves qui sont allés se former sur Internet parce qu'il y a des chaînes YouTube qui sont dévolues à la contradiction des profs d'histoire, notamment sur la Shoah, par exemple, ou des questions de ce genre, et qui vont être confrontés à des arguments auxquels ils n'ont pas du tout pensé, que n'importe quel historien évidemment, de spécialiste de la question déferait facilement. Mais il n'est pas facile pour les collègues de pouvoir répondre à tout. Et il n'est pas facile de pouvoir répondre à 150 arguments. Et c'est pourquoi la plupart d'entre nous, eh bien, nous nous taisons. Et en nous taisant, le serpent se mord la queue, nous laissons ces arguments, n'est-ce pas, être de plus en plus visibles. Et lorsque, comme c'est le cas, les journalistes disent « cette fois, on va répondre », les journalistes que les conspirationnistes décrivent comme si puissants, Eh bien, je me suis amusé c'est beaucoup dire parce que c'est un gros travail, à dénombrer le genre d'arguments, le nombre d'arguments qui étaient démystifiés par les journalistes. Vous voyez, donc en bleu, vous avez les arguments conspirationnistes et en rouge, vous avez le nombre d'arguments au jour le jour qui ont été démystifiés par pratiquement toute la profession journalistique qui s'y est mise. Donc vous voyez que le rapport de force est encore de 1 sur 3. Et c'est particulièrement saillant au début de la courbe. Vous voyez, vous voyez la motivation des conspirationnistes. Donc il n'est pas du tout évident. Il n'est pas du tout évident qu'on peut l'emporter facilement, simplement en faisant des sites de désintoxication, comme on en voit, qu'il faut d'ailleurs, qui sont absolument nécessaires. Mais vous savez que les croyants, de toute façon, quand ils sont contredits dans leurs croyances, n'abandonnent pas leurs croyances la plupart du temps. Au contraire, il y a un effet qu'on appelle un effet boomerang, qui renforce la croyance, tout simplement parce que c'est un effet dissonance. Quand vous êtes confronté à une contradiction, vous allez revoir un certain nombre d'arguments pour être sûr de vous. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on a pu montrer que face à des argumentaires contre-conspirationnistes, les conspirationnistes partageaient encore plus de liens conspirationnistes, 30% de plus, vous voyez. Donc c'est pas pour eux qu'il faut faire cela, mais probablement pour les indécis. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour rendre dans l'espace public disponible l'argumentation rationnelle. Et il y a une raison supplémentaire, et je vais approcher de ma conclusion, il y a une raison supplémentaire pour cela, et qui est la pire de tous. Pour l'instant, je vous ai dit que des choses relativement optimistes. Il y a encore une raison beaucoup plus redoutable qui relève de ce que je propose d'appeler la démagogie cognitive. Qu'est-ce que c'est la démagogie cognitive ? C'est le fait, tout simplement, que le marché de l'information a tendance à s'indexer de plus en plus l'offre d'information sur la demande supposée d'information. Et malheureusement, les journalistes professionnels ne font pas exception à cette règle, puisqu'il y va de leur survie économique. N'oubliez pas que le journalisme, aujourd'hui, survit par sa capacité à capter de l'attention. Et donc, cette captation de l'attention, elle est pieds et poings liés à la façon dont fonctionne notre cerveau, à ce qui va nous intéresser sur ce marché dérégulé de l'information. Seulement voilà, nous ne nous intéressons pas forcément prioritairement à l'orthodoxie de la science, à des argumentations complexes, mais nous avons des intuitions sur le monde. Nous avons des intuitions, notre cerveau est formidable, mais dans un certain nombre de cas, vous le savez sans doute, il peut nous tromper systématiquement. C'est le cas, par exemple, bien connu des illusions d'optique. Alors là, pardon, excusez-moi, j'indique simplement qu'il y a eu un bel article dans la revue Science, vous connaissez tous cette revue évidemment, qui a apparu au mois de mai, donc c'est très récent, et qui montre que sur Twitter, les fausses informations se diffusent 6 fois plus vite que les bonnes. Pour illustrer un peu quantitativement ce que je vous ai dit jusqu'à précédemment. Oui, alors pourquoi ? Eh bien pourquoi ? Une des raisons, j'entamais mon idée, c'est de dire que le cerveau est formidable mais qu'il nous trompe systématiquement. Et un des exemples les mieux connus, les mieux documentés, c'est évidemment les illusions d'optique, tout simplement. Regardez par exemple ici, les cases A et B sont de la même couleur. Seulement notre cerveau nous interdit de voir cela. Pas les lettres, mais bel et bien les cases. Et évidemment, c'est une vérité scandaleuse. Nous n'avons pas du tout l'impression que les cases sont de la même couleur. J'espère, sinon mon effet pédagogique est totalement raté. Donc je vais faire comme si vous étiez bien victime de cette illusion d'optique. Et je vais faire disparaître le contexte pour vous le prouver. Vous voyez, si je fais disparaître le contexte de traitement de l'information, vous voyez là que les deux cases sont de la même couleur. Mais si je fais réapparaître le contexte d'information, c'est fini. Votre cerveau vous trompe de nouveau. Et c'est tragique, n'est-ce pas, pour le traitement de la vérité. Seulement, là où nous pouvons nous rassurer, c'est que ce dont je vais vous parler en conclusion, à savoir un autre type d'illusion, des illusions cognitives et non pas visuelles à proprement parler, eh bien, ces illusions provoquent des effets psychiques moins prédictibles et moins mécaniques que les illusions d'optique. Mais elles sont quand même relativement tenaces. Il faut y prendre garde, surtout quand elles s'hybrident avec des propositions idéologiques dans lesquelles nous avons envie de croire. Et lorsque, notamment dans le temps social, nous sommes dans un temps social particulier, là, où vous allez vous méfier de votre intuition. C'est normal parce que vous savez qu'à partir de maintenant, dans les prochaines minutes, je vais essayer de vous tromper. Et donc, vous avez suffisamment d'intelligence pour rétrojuger sur votre intuition et vous dire, bon, il ne faut pas que j'écoute mon intuition dans ce cas de figure. Mais dans la vie sociale habituelle, nous n'avons pas toujours des raisons de suspendre notre jugement. Du moins, le croyons-nous. Par exemple, prenez ce petit problème, le plus simple que je connaisse, qui est le suivant, qui est très connu, vous connaissez peut-être déjà. Une balle de baseball et une batte de baseball valent ensemble 110 euros. La batte coûte 100 euros de plus que la balle. Donc combien coûte la balle ? Et là, vous vous dites, il ne faut surtout pas que je réponde 10 euros, pour les raisons que j'ai énoncées précédemment, parce que vous vous méfiez de votre intuition. Mais si vous vous dites cela...
Il faut se méfier de l'orthographe.
Probablement, probablement. Et je m'en excuse, je n'ai pas relu peut-être bien cette slide. Alors, le problème dans ce cas de figure, c'est qu'effectivement, il ne faut pas dire 10 euros, mais probablement que si vous vous êtes dit, il ne faut pas que je réponde 10 euros, c'est que votre intuition vous a suggéré 10 euros. Tellement, encore une fois, nous sommes dans un temps social où, vous vous méfiez de votre propre intuition parce que vous savez que je vais essayer de vous tromper. Ça ne peut pas être 10 euros, évidemment, puisque si c'était 10 euros pour la balle, puisque la batte vaut 100 euros de plus, elle vaudrait 110 euros. 110 plus 10 égale 120, le compte n'y est pas. La bonne réponse, qui est très contre-intuitive, c'est 5 euros. Oui, et si la balle vaut 5 euros, la batte vaut 105 euros, 100 euros de plus, 105 plus 5 égale 110. C'est un niveau de mathématiques de cours moyen. Je dis cela pour bien vous souligner, étant donné la qualité du parterre que j'ai face à moi, que ce n'est pas du tout une question d'intelligence, évidemment, ou de niveau de mathématiques à proprement parler. Ça aide, pour vous dire, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais avoir un bon niveau de maths, ça aide à faire reculer quand même certains biais cognitifs, mais globalement, ce sont des invariants mentaux. Nous sommes tous confrontés à la morsure possible de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Pour vous en donner, parce que vous pouvez dire, oui, d'accord, bon, ce sont des petits problèmes comme ça, très artefactuels en quelque sorte, mais non, c'est très facile de vous montrer des tas d'exemples montrent que certaines de nos croyances sont adossées à ces biais cognitifs. On a parlé, par exemple, de la méfiance envers les vaccins. Cette méfiance envers les vaccins, elle est fondée, par exemple, sur la surestimation des très faibles probabilités. Chacun sait bien que même ceux qui sont anti-vaccins, que les probabilités de chance que vous ayez un problème avec un vaccin, type, je sais pas, réaction allergique ou autre, elles sont extrêmement faibles, mais notre cerveau a tendance à multiplier intuitivement les faibles probabilités par 10 ou 15. De la même façon, nous avons plus d'intérêt pour les coûts d'une situation plutôt que ses bénéfices. On a pu montrer qu'il faut à peu près 2,5 euros de bénéfices pour compenser 1 euro de bien. De coût, pardon. Et nous avons beaucoup plus d'attention pour les conséquences de nos actions plutôt que les conséquences de notre inaction. Ainsi, les parents qui ont peur de faire vacciner leurs enfants disent qu'ils ne se pardonneraient pas de les faire vacciner et de voir qu'une sclérose en plaques se diffuse, puisque c'est une des croyances qui s'est développée à propos du vaccin hépatite ou même à propos d'ailleurs du récent vaccin prévenant une partie des cancers de l'utérus. Alors, ils ne supporteraient pas d'avoir assumé la conséquence de leur action, donc de la vaccination, mais ils se portent assez bien pour assumer les conséquences de leur inaction, la non-vaccination de leur enfant qui, peut-être, pourra provoquer de sérieux ennuis de santé plus tard. Prenons un autre exemple très simple. Prenez cet énoncé que j'ai composé pour vous. Les femmes très intelligentes ont tendance à épouser des hommes moins intelligents qu'elles. Ce qui est tout à fait exact, c'est vrai, n'est-ce pas ? Eh bien, vous voyez, je suis persuadé que face à cet énoncé, vous avez une ou deux théories pseudo-sociologiques qui émergent dans votre cerveau. Vous cherchez à expliquer cela. Et en fait, votre explication sera sans doute fausse, elle est pleine de nos préjugés. Mais la vérité, ce qu'il faut retenir, c'est que les femmes très intelligentes, c'est très rare. Je vais vous laisser rire un peu et je vais préciser immédiatement pour qu'il n'y ait pas de malentendu que les hommes très intelligents, c'est très rare aussi. Je vous soulage. Et oui, en fait, le problème de cet énoncé, c'est qu'on évoque une rareté statistique. Donc dans l'urne de l'amour, si vous me permettez cette métaphore, dans l'urne de l'amour, il est normal que quelqu'un de très intelligent puise probablement quelqu'un de moins intelligent que elle ou lui. J'aurais pu dire que les femmes très bêtes se marient souvent avec des hommes plus intelligents qu'elles, ou des hommes très bêtes se marient souvent avec des femmes. Tout aurait fonctionné. Bien, voyez, si nous avons des théories a priori sociologiques très fautives sur un énoncé de ce genre, sans y prendre garde, c'est parce que nous sommes victimes d'un biais qui s'appelle la négligence de la régression vers la moyenne, que je n'ai pas le temps de vous détailler. Bref, il y a plus de 150 biais qui ont pu être identifiés dans la littérature et qui s'hybrident, ces invariants mentaux, s'hybrident avec toutes les variables sociales que j'ai évoquées et toutes celles que je n'ai pas eu le temps d'évoquer. Il est évident que tout cela se compose pour faire de nous les dupes possibles de la crédulité collective sans pour autant avoir perdu toute notre rationalité. Je terminerai par un dernier exemple, tout à fait, et qui précédera nos échanges, et qui vous montre combien le cadre de l'information peut avoir un impact massif sur nos réponses. Voilà un problème, c'est pas moi qui l'ai composé, ce sont les célèbres Amos Tversky et Daniel Kahneman qui ont presque tout inventé dans ce domaine, le domaine des biais cognitifs. Voilà ce problème, je vous laisse le lire, je vais le lire avec vous. Supposons que 600 personnes ont été exposées à une maladie mortelle, vous devez choisir entre deux options. Sauver 200 personnes, avoir 33% de chances de sauver tout le monde et 66% de ne sauver personne. Bon. Il n'y a pas de bonne solution à ce problème, c'est un dilemme. Un dilemme moral, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Vous voyez qu'à la louche, évidemment, l'espérance mathématique est la même. Eh bien, donc si je prenais la moitié de cette salle à part et je vous confrontais à ce problème et je vous demandais de choisir, vous feriez un choix. Et maintenant, je prendrais la deuxième moitié qui est derrière moi et j'exposerai cette deuxième moitié séparément à cet autre problème. Supposons que 600 personnes ont été exposées à une maladie mortelle, vous devez choisir entre deux options. Vous laissez mourir 400 personnes, mais 200 survivent. Et il y a 66% de chances que tout le monde meure, mais 33% que tous survivent. Comme j'ai réuni imprudemment les deux groupes et que je ne suis pas du tout en condition expérimentale, vous avez remarqué évidemment qu'il s'agit exactement du même énoncé et que j'ai simplement changé le cadre du problème. Pour en être tout à fait certain, voilà, je vais remettre les deux exposés de cette façon. Et donc, quand Amos Tversky et Daniel Kahneman ont fait passer cette petite expérimentation, ils ont obtenu ce résultat qui est très spectaculaire. Dans le premier cas, 72% des sujets de l'expérience choisissent la première option, à savoir sauver 200 personnes. Et dans le deuxième cas, 78% des sujets de l'expérience préfèrent l'option numéro 2. Voyez comment le cadre de l'information peut générer, non pas mécaniquement, car nous ne sommes pas encore une fois des automates, mais statistiquement, un type de réponse attendue. Tout cela pour vous dire que dans le bras de fer qui se noue devant nos yeux, la démocratie des crédules, c'est une dystopie. Je ne dis pas que nous sommes dans cette condition-là. Nous n'y sommes pas encore. De la même façon que la démocratie de la connaissance est une utopie. Mais le bras de fer a bien lieu, en ce moment, devant nos yeux encore une fois, entre la démocratie des crédules et la démocratie de la connaissance. Et du résultat de ce bras de fer, dépend l'avenir de nos démocraties, certainement. Et tout cela dépend aussi un peu de notre capacité à analyser la situation et à agir collectivement. Je vous remercie.